Donc, comme vous le savez, nous sommes lancés dans la refondation de l'éducation prioritaire. Nous avons une circulaire qui est parue, un référentiel de l'éducation prioritaire, un certain nombre d'orientations. Nous sommes dans les mises en œuvre, c'est-à-dire que nous avons commencé avec 102 REP plus préfigurateurs. Nous allons avoir à la rentrée prochaine une évolution de la carte de l'éducation prioritaire encore. Nous allons donc aller vers une refondation plus ample de l'éducation prioritaire dans l'ensemble des territoires, avec l'idée de rendre l'éducation prioritaire à la fois plus juste et plus efficace. Donc, merci beaucoup à vous d'être là pour nous aider dans cette perspective qui est une perspective nationale, qui dépasse chacun d'entre nous, bien évidemment. Merci beaucoup d'être aussi dans chacun de vos terrains, d'y faire ce que vous faites pour l'éducation prioritaire. Les enjeux sont tels dans l'éducation prioritaire, pour la réussite de tous, que nous devons être tous mobilisés et solidaires. Nous avons besoin de communautés de projets, nous avons besoin de communautés de valeurs, nous avons besoin de confiance les uns dans les autres pour mener à bien ce que nous avons à faire, nous avons besoin d'engagement à la fois sincère et durable dans ce que nous avons à faire, nous avons aussi besoin d'y consacrer le temps nécessaire, et ce n'est pas toujours simple à réaliser, je sais bien. Avant d'être au bureau de l'éducation prioritaire, j'étais DAZEN adjoint en Seine-Saint-Denis, dans le Val-de-Marne, dans différents endroits. J'ai travaillé comme IEN également. Je sais bien que concrètement, dans la vie quotidienne d'un terrain, d'un réseau, les choses ne sont jamais tout à fait simples et qu'il y a à y travailler beaucoup. Mais je vous remercie parce que vraiment, c'est d'abord ce qui importe, que nous partagions des perspectives, que nous puissions porter ces perspectives ensemble, chacun à sa place, chacun en collaboration, en coopération avec les autres. Alors, je voudrais articuler mon propos sur le travail collectif en éducation prioritaire en trois temps. Le premier temps sera essayer de dire pourquoi on en vient tant à parler du travail collectif à l'école, parce que ce n'est pas seulement en éducation prioritaire, c'est pourquoi on en vient tant à parler du travail collectif à l'école, et en éducation prioritaire en particulier. Le deuxième temps, ce sera repréciser ce que l'institution attend du travail collectif. L'institution a produit des textes sur le travail collectif, ou je dirais plus précisément sur la coopération dans une équipe de travail. J'ai envie de dire que les mots précis pour dire ce que nous sommes en train de travailler, c'est comment est-ce que nous travaillons la question de la coopération dans une équipe de travail ou dans une équipe au travail. Et puis ensuite, j'essaierai de me montrer très prosaïque, très presque simpliste, vous m'en excuserez, pour rappeler ce qui me semble être des conditions très simples du travail en équipe. Quelles conditions sont plutôt bien réalisées dans certains milieux de travail, chez nous comme ailleurs, et plutôt mal réalisées dans un certain nombre d'endroits. Donc je vais essayer de dire ce qui me semble être les conditions de la bonne réalisation d'un travail d'équipe. Alors, pour le premier point, d'où cela nous vient-il? Pourquoi en avons-nous besoin? Je m'appuie simplement sur trois articles. J'aime bien citer les sources, rendre à César ce qui lui appartient toujours. Vincent Dupriez, alors vous retrouvez tout ça sur Internet, il n'y a pas de difficulté, c'est lisible, c'est disponible. Vincent Dupriez, le travail collectif des enseignants au-delà du mythe. Michel Grangeat sur le travail collectif des enseignants, il a beaucoup écrit sur ces questions-là. Daniel Calin, qui est peut-être moins connu, mais qui a un site très intéressant sur... Pour les enseignants, notamment de l'enseignement spécialisé, mais qui va quand même au-delà de cet enseignement-là, sur le travail en équipe des enseignants. Tout ça est accessible sur Internet, et vous aurez ici, évidemment, au cours de cette formation, des tas d'autres références sur cette question, parce qu'il y a une littérature sur la question du travail collectif des enseignants. Beaucoup de chercheurs se sont penchés sur ces questions, et vous trouverez, je pense, auprès du Centre Alain Savary, toutes les références en la matière. Alors, première chose, le travail en équipe est étranger au système éducatif français historiquement. Le système éducatif français est historiquement très centralisé, très pyramidal. On est dans un pays à la fois de tradition catholique et de système du lycée napoléonien. Ça pose un cadre, ça indique un certain nombre d'éléments de culture qui font que c'est comme ça. Le lycée napoléonien a constitué un élément fortement modélisateur pour le second degré. Et nous héritons de tout cela, Et c'est quelque chose qui nous rend la tâche aujourd'hui assez compliquée. On est dans un système avec des disciplines, des programmes, un système qui privilégie en quelque sorte la préparation des cours, la correction des copies. Tout ça, ce sont des exercices solitaires. Préparer un cours, c'est un exercice qu'on fait le plus souvent très solitairement. Corriger des copies, on le fait aussi souvent tout seul, souvent à domicile. Et il n'y a pas de tradition de lieu de travail dans nos établissements scolaires. Nos établissements scolaires ont été construits comme des établissements dans lesquels il y a des classes. Au mieux, dans le premier degré, une salle des maîtres, mais pas toujours de taille très agréable. Et souvent, on y fait beaucoup de choses différentes dans la même salle. Donc on n'a pas pensé cette question-là au cours du système éducatif français. Donc les trois auteurs que je cite relient la question de l'émergence du travail en équipe à celle d'une nécessaire reconfiguration du système. Pourquoi reconfigurons-nous le système ? Dans le cadre d'un processus que vous connaissez, qui est le processus de décentralisation, et qui a pour pendant, c'est-à-dire le fait de remettre aux collectivités territoriales davantage de compétences, hein, processus de décentralisation, et qui a des conséquences évidemment sur le processus de déconcentration, c'est-à-dire le fait de remettre des compétences qui appartenaient à l'État progressivement aux services décentralisés de l'État, c'est-à-dire aux recteurs en particulier, et au local. Donc ce système, finalement... qui a une origine très, très bureaucratique, s'appuyait dans un premier temps sur une normalisation extrêmement poussée des procédures. Exemple dans le premier degré, moi, quand j'ai commencé comme IEN en 1984, ça date un peu maintenant, il y avait encore dans les écoles un volume de travail qui était très présent, qui s'appelait le Leterrier, dans lequel vous aviez tous les cours du premier degré, de la première minute du matin jusqu'à la fin de l'après-midi, et classe par classe, le CP, le CE1, le CE2, et pour toute l'année. Et vous pouviez suivre à la lettre simplement le Leterrier et vous étiez dans les clous. C'est-à-dire vous faisiez ce qu'on attendait de vous, des procédures très normalisées, et l'inspecteur venait contrôler la mise en place des procédures. La mise en place des programmes, bien sûr, mais la mise en place des procédures. Dans le second degré, bien souvent... l'inspecteur conseillait son manuel. C'est-à-dire, la base du travail du second degré, c'était quasi exclusivement le manuel. Et chaque inspecteur, alors quand je dis son manuel, ce n'était pas forcément le manuel qu'il avait écrit, quoique ça pouvait arriver quand même. Mais c'était le manuel qu'il aimait bien, le manuel qu'il trouvait favorable à sa discipline et à l'expression de ce que ses élèves devaient faire. Quand j'ai débuté comme prof, je devais... utiliser un manuel que l'inspecteur me recommandait. Et il n'était pas question qu'on utilise un autre manuel si on voulait être noté correctement par cet inspecteur. Alors des choses ont évidemment bien changé. Aujourd'hui, avec la dimension internationale, avec la dimension européenne, nous passons progressivement à un système qu'on dit post-bureaucratique, qui fixe des objectifs et qui contrôle leur atteinte. Alors évidemment, quand on est dans un système qui est sur une logique de fixation d'objectifs, et vous savez qu'il y a tout un débat autour du socle commun en ce moment, avec toute la question du curriculum, on recherche la réussite. C'est-à-dire on cherche à faire en sorte que les élèves atteignent les objectifs en question. Et donc l'évaluation du système consistera non plus à contrôler des procédures, mais à contrôler progressivement l'atteinte des objectifs en question. Et vous le voyez bien avec tous les systèmes de comparaison internationale, vous le voyez avec PISA, vous le voyez avec tous les travaux de l'ADEP, enfin tout ça est très clair. Alors, on recherche la réussite. Le système a progressivement évolué dans sa conception de la réussite. La réussite d'abord de quelques-uns, la réussite des meilleurs de tous les milieux, la logique d'égalité des chances. Les formulations ont évolué au cours du temps. Et aujourd'hui, la formulation qu'il faut retenir, c'est celle de l'article 2 de la loi de refondation de l'école de la République qui dit « tous peuvent apprendre, tous peuvent progresser ». La réussite pour tous. Je crois que c'est un élément extrêmement important parce qu'au fond, en tant que pédagogue, c'est quelque chose que nous avons peut-être toujours pensé. Je ne connais pas beaucoup de pédagogues qui n'aient pas envie que tous leurs élèves réussissent. Mais en même temps, c'est quelque chose qu'on n'avait jamais écrit. Or, c'est une forme importante de la pensée éducative. que de le rappeler et de le rappeler inlassablement. Tous peuvent apprendre, tous peuvent progresser. Donc, finalement, on déplace progressivement au cours de cette perspective de déconcentration, décentralisation, on déplace progressivement le fonctionnement du système, d'un système normalisé national, vers l'école et l'établissement. Donc c'est l'école, l'établissement qui sont au cœur du processus. On attend beaucoup du projet. Le projet émerge dans le système éducatif dans les années 1980. 85, le projet d'établissement. 89, le projet d'école. Et donc c'est quelque chose de nouveau. Vous noterez d'ailleurs qu'auparavant, en 81, il y avait eu le projet de zone. Hein, c'est-à-dire que les zones d'éducation prioritaire ont toujours été, de ce point de vue-là, au départ d'évolution du système éducatif français. L'éducation prioritaire est porteuse des évolutions ultérieures de l'ensemble du système. C'est un point très important parce que ça veut dire que ce que nous faisons aujourd'hui en éducation prioritaire a une grande importance pour l'école de demain. C'est une responsabilité qui nous échoit de ne pas nous tromper dans ce que nous allons faire. Alors, quand on est dans une logique de projet, quand on est dans une logique localisée, évidemment, il faut une régulation qui passe par d'autres modes que le seul contrôle, mais qui passe évidemment par des logiques de fonctionnement d'équipe d'école, fonctionnement d'équipe d'établissement. Alors, il va y avoir évidemment de la tension entre le système qui reste normé et qui pouvait se contenter de la solitude des enseignants assimilés par certains à la liberté pédagogique, dont on pourrait montrer combien elle-même aussi est une sorte de mythe, hein, mythe pratique, parfois pour résister au collectif. Et ce système donc, qui demande aux acteurs de l'éducation de construire ensemble dans un contexte, pose trois impératifs. Le premier impératif aujourd'hui, c'est les objectifs du socle, avec comme horizon l'élévation de la réussite de tous. C'est un objectif qui n'est pas négociable. Avec le socle, l'école s'oblige. Ce n'était pas le cas avec une logique uniquement de programme. Avec le socle, elle s'oblige à ce que tous aient atteint un minimum de compétences, de connaissances et de culture. Deuxième impératif, l'adaptation à la diversité des niveaux des élèves accueillis et enseignés. Pour que tous progressent, pour que tous réussissent, il faut s'adapter à là où ils sont, les prendre là où ils sont et les faire progresser à partir de là où ils sont. Et troisième impératif, c'est la cohérence de l'action des professionnels divers à l'endroit de chacun des élèves. Beaucoup de nouveaux professionnels. L'école aujourd'hui, ce n'est pas seulement un maître, une classe. Le collège, ce n'est pas seulement un enseignant, une classe, une discipline. C'est un ensemble de professionnels qui vont avoir à travailler ensemble. Alors, tout ça pourquoi ? Parce qu'il y a finalement eu la question du choc de la non-réussite. Alors on dit le choc PISA, mais le choc il a commencé avant, le choc des inégalités, le choc de la non-réussite qui exige le travail en équipe pour donner sens à l'action pédagogique, pour donner sens au lien entre les savoirs. Deuxièmement, la complexité des difficultés observées, c'est-à-dire le fait que nos élèves présentent des difficultés qu'il n'est pas facile de surmonter, et cette analyse des difficultés observées va mieux quand on croise les regards sur les difficultés en question, quand il y a une complémentarité des interventions pédagogiques. Et puis troisièmement, le fait que nous ayons cette diversification des métiers, on a multiplié les métiers dans le premier degré, les RASED ça n'a pas toujours existé, les psychologues scolaires ça n'a pas toujours existé, il y avait des maîtres avant que tout cela existe. Et puis, dans le second degré, bien évidemment, vous voyez la diversité des métiers présents dans le second degré, que ce soit les métiers sociaux et de santé ou les métiers de type vie scolaire. Donc, cette diversification impose en quelque sorte le travail en équipe. C'est sans parler de la question de l'ouverture de l'école aux parents, et de l'ouverture de l'école aux partenaires. Hein. Je laisse ça de côté pour l'instant, mais il y a un sujet aussi autour de cette question de l'ouverture de l'école aux parents et de l'ouverture de l'école aux partenaires qui va imposer du collectif complémentaire de l'école. Donc finalement, le projet collectif exige que chacun soit dans une relation d'efficacité et de complémentarité avec les autres pour atteindre l'objectif posé, celui de la réussite de tous. Alors, j'en viens au deuxième point. Comment est-ce que c'est inscrit dans les orientations nationales ? Alors, je vous renvoie très simplement à deux textes. Il y en a un dont je trouve qu'il n'est pas toujours assez connu, il mérite de l'être davantage. C'est le référentiel des compétences professionnelles des métiers du professorat et de l'éducation du 18 juillet 2013. Alors, peut-être que vous le connaissez tous, tant mieux, c'est bien. Si tout le monde le connaît et le connaît bien, c'est bien. C'est indispensable comme référence pour travailler sur les questions que nous avons à traiter. C'est l'horizon des ESPE. C'est l'horizon de la formation initiale. C'est l'horizon de la formation continue. C'est l'exigible professionnel. Aujourd'hui, c'est-à-dire que quand on est dans une logique d'observation des collectifs de professionnels au travail, on doit se dire, ben voilà, on a des références qui nous paraissent exigibles dans les écoles, les collèges et les lycées. Vous noterez que ce sont les mêmes avec des adaptations au sein du référentiel, selon qu'on est à l'école, au collège, au lycée professionnel, il y a certains éléments qui sont adaptés. Ce qui est très important de noter aussi, c'est que ce référentiel est un référentiel des métiers du professorat et de l'éducation. Auparavant, il y avait des référentiels pour les enseignants et des référentiels séparés pour d'autres, qui d'ailleurs n'avaient pas droit de citer dans les textes officiels pour certaines des professions. Aujourd'hui, il y a un référentiel pour les métiers du professorat et de l'éducation. Très important qu'il soit partagé. Le deuxième, vous vous en doutez, mais vous le connaissez par cœur maintenant, je pense. Si vous êtes là, c'est que vous le connaissez par cœur. C'est le référentiel pour l'éducation prioritaire, qui indique dans sa partie 4 la nécessité de favoriser le travail collectif de l'équipe éducative. J'y reviens un peu parce qu'à la base de tout cela, il y a un mot qui me semble très important, qui est le mot « coopération ». Il est employé de nombreuses fois dans le référentiel des compétences professionnelles. Évidemment, la psychologie sociale nous a enseigné qu'en matière humaine et éducative, coopération vaut mieux que compétition. Vous pouvez trouver une abondante littérature dans les travaux de Monteil, par exemple, « Éduquer et former » sur ces questions-là. Quand on veut atteindre des objectifs dans le domaine de l'évolution des humains, on a intérêt à s'inscrire dans des logiques de coopération. Le référentiel des compétences insiste sur cette question. Le point 10 de ce référentiel, coopérer au sein d'une équipe. Coopérer au sein d'une équipe. Et il insiste sur la complémentarité des enseignements, qu'est-ce qu'on met derrière coopérer au sein d'une équipe, la complémentarité des enseignements, la continuité des enseignements, les objectifs et leur évaluation, les projets collectifs. Ça, c'est pour coopérer au sein d'une équipe. Quel est le but de coopérer au sein d'une équipe ? C'est de mieux assurer la complémentarité des enseignements, mieux assurer la continuité de ces enseignements, les objectifs, la définition des objectifs, mieux assurer leur évaluation et développer des projets collectifs. La nécessité de... Il insiste sur d'autres aspects aussi. Hein. Parce que finalement, sur les 14 orientations communes à toutes les professions, 5 concernent la question du collectif. C'est pas peu. Hein. Sur 14 orientations, 5 concernent la question du collectif. Donc il insiste sur la nécessité de contribuer à l'action de la communauté éducative, et là il va réinsister sur la question de la complémentarité des métiers, il insiste sur l'idée de coopérer avec les parents d'élèves, qui devient désormais une des obligations du métier, de coopérer avec les partenaires de l'école, et de s'engager dans une démarche individuelle et collective de développement professionnel. L'idée que le développement professionnel n'est pas quelque chose qui relève de la seule responsabilité de chacun des individus séparés, mais que peut-être on peut être plus efficace en matière professionnelle et de développement professionnel en étant dans un collectif de professionnels qui recherchent une formation commune, est un point qui est bien installé dans le cœur de ce référentiel. Évidemment, je veux m'attarder davantage sur le référentiel de l'éducation prioritaire pour en commenter certains aspects, parce que nous avons essayé de, quand nous avons élaboré ce référentiel, je dois dire dans un beau travail d'équipe, parce qu'il faut quand même dire les choses, au bureau de l'éducation prioritaire, on n'a pas fait ça tout seul du tout. On a fait du travail d'équipe d'abord avec des groupes de travail. Il y a eu du travail interne au ministère avec des groupes de travail comprenant des collègues de différents terrains et des collègues du ministère. On a fait ça aussi dans le cadre des assises, c'est-à-dire que dans le cadre des assises, il y a eu des groupes au travail sur les orientations du référentiel et nous nous sommes alimentés de toute la réflexion collective des assises. Il y a eu tout un travail qui a été conçu à partir de tous les textes existants, également antérieurement dans les comparaisons internationales, etc. Donc le référentiel d'éducation prioritaire, c'est bien le fruit déjà d'un travail d'équipe et de nombreuses réunions. Parce que je vois souvent des gens dire « les réunions, c'est pas bien », « les réunions, la réunionnite, c'est pas bon ». Je reviendrai tout à l'heure sur les réunions. Je pense qu'il n'y a pas de travail d'équipe possible sans l'outil du travail d'équipe qu'est la réunion. Sinon, je ne sais pas de quoi on parle quand on parle de travail d'équipe. Mais ce n'est pas gagné que cette idée de la réunion soit toujours quelque chose d'utile. Ce n'est pas une idée qui est complètement assurée. Alors, première chose que nous dit le référentiel d'éducation prioritaire, c'est construire la confiance dans la réussite de tous. Je l'évoquais tout à l'heure, c'est un point fort et nouveau dans la loi. Cela ne va pas de soi. Il y a des équipes convaincues. À l'origine des ZEP, il y a notamment un monsieur qui s'appelle Alain Bourgarel qui a beaucoup travaillé à Gennevilliers à l'origine de l'éducation prioritaire dans les années 60 pour dire « il faut l'éducation prioritaire ». Et ce collègue enseignant a beaucoup développé cette idée de la réussite de tous dans son école et a obtenu, à vrai dire, des succès très intéressants. Et surtout, le grand succès qu'il a obtenu, c'est qu'Alain Savary développe les zones d'éducation prioritaire en 1981, c'est-à-dire quelques années après qu'il en ait lancé l'idée. Il y a des endroits où ça fait conflit, cette question-là. Ça ne va pas de soi. Donc je pense que c'est des occasions, si vous voulez, de reposer la question très clairement des valeurs, de partager, d'échanger. Il ne faut pas laisser cette question sans qu'elle soit débattue. Je crois que c'est très important qu'il y ait... Il ne faut pas dire qu'il faut qu'il y ait le partage de valeurs avant, parce que si on dit qu'il faut qu'il y ait le partage de valeurs avant, on n'y arrivera jamais, si vous voulez. C'est pas possible. Il faut que le partage de valeurs se construise en faisant. Et donc, je pense que quand il y a des désaccords dans des équipes, il y a à travailler des questions comme celle-là. C'est des questions fondamentales, mais c'est des questions qui peuvent se travailler. Le deuxième axe qu'on a donné, c'est construire de l'évaluation partagée. Pourquoi ? Parce que le pendant de la responsabilité revendiquée dans le cadre de la liberté pédagogique, qui dit liberté pédagogique, dit sens de la responsabilité. Je suis responsable de ce que je fais, je veux l'être pleinement, et c'est normal. On ne peut pas travailler si on ne se sent pas responsable de ce qu'on fait. Mais le pendant de la responsabilité, c'est évidemment qu'on puisse évaluer ce qu'on fait et qu'on puisse déterminer dans quelle mesure ce qu'on fait va bien dans le sens attendu. Parce que l'objectif attendu, lui, il n'est pas libre. L'objectif attendu, il est défini par la nation dans le socle et dans les programmes. Donc, comme l'objectif n'est pas libre, évidemment, il faut que chacun des individus... contrôle que ce qu'il fait en toute liberté va bien dans le sens de ce qui est attendu. D'où le fait de dire construire de l'évaluation partagée, réaliser les tâches qui permettent d'obtenir les résultats et rendre compte non pas des procédures, mais des résultats. Donc, troisièmement, on a dit qu'il faut construire des temps adaptés au développement professionnel en équipe. C'est la raison pour laquelle on donne du temps dans les REP+, rendre possible ces temps d'échange entre professionnels qui permettent ce développement. Quatrièmement, construire des temps d'analyse des difficultés des élèves, analyse des difficultés rencontrées dans l'exercice du métier avec les élèves pour rechercher des solutions plus collégialement, mettre de la cohérence dans les réponses là où il y a parfois une très grande diversité, mettre de la complémentarité entre les différents acteurs, avec le développement des logiques de co-enseignement, avec le travail avec les réseaux d'aide dans le premier degré, avec le travail avec les professeurs supplémentaires dans le second degré. On voit bien qu'il y a du travail à faire pour mettre de la cohérence dans ce qu'on fait. Cinquièmement, pour réaliser cela, il faut construire le temps du travail en équipe, le temps du travail en réunion d'équipe. Je reviendrai sur la réunion. Il faut l'instituer. Moi, je ne connais pas de réunion de travail qui se passe bien si elle n'est pas instituée. Il faut que les temps soient précisés. Ça ne va pas de soi, hein ? Mais il y a eu des débats forts autour de ces questions-là dans certaines équipes. Il y a en ce moment des débats très forts en REP+, sur une question comme celle-là, avec des conceptions un petit peu complexes des relations avec la hiérarchie. En ce moment, on assiste, et je serai très intéressé par tout ce que vous direz là-dessus au cours de votre temps d'échange et temps de travail, parce que nous sentons bien qu'il y a là un point de tension qui n'est pas totalement résolu à cette heure, sur lequel on a, nous, sans doute quelque chose à dire et à faire. La pondération libère du temps. Ce temps n'est pas du temps libre. Ça a été clairement écrit dans le décret. Ce temps, c'est du temps qui doit être consacré à du travail collectif. Alors, c'est un peu la difficulté de notre perspective, c'est que nous proposons que se mette en place du travail collectif. Nous ne proposons pas les modalités dans lesquelles il doit se mettre en place, et c'est toute la difficulté pour les acteurs en ce moment de clarifier les méthodes de travail. Néanmoins, je ne crois pas possible, c'est un point qui me semble un point fort, ce travail collectif sans que les temps en question soient institués sous l'autorité forcément d'un chef d'établissement. Ensuite, la question, c'est la question des modes d'exercice de l'autorité qui peut se poser ici ou là. Mais que ça s'exerce, qu'une autorité s'exerce, me paraît nécessaire. Pour réaliser cela, il faut aussi bien préciser les objectifs de ces temps de travail. Alors, on a proposé dans le référentiel quelques pistes souhaitables quant aux objectifs pédagogiques, d'abord. On a dit, par exemple, il est bien de mettre au point des programmations pédagogiques. Parce que sinon, comment on fait dans un cycle si on ne se met pas d'accord sur ce que les uns et les autres vont faire au sein du cycle ? On voit pas bien. Il faut préparer et analyser des séquences ou des évaluations ensemble. Par exemple, dans une école où vous avez plusieurs classes de même niveau, dans un collège, vous en avez forcément plusieurs. Si vous ne vous mettez pas d'accord un petit peu sur les évaluations entre professeurs d'une même discipline, par exemple, bon, voilà, ce n'est pas forcément très, très efficace ensuite ce qu'on fait. Il faut mettre au point des dispositifs pédagogiques adaptés aux besoins, mettre en place la co-intervention. On le voit bien avec plus de maîtres que de classes. Ça nécessite du temps de travail, de préparation, et du temps de travail à plusieurs. Évidemment, ce n'est pas toujours simple à réaliser. On a mis des objectifs également pour le suivi des élèves. On a proposé quelques perspectives qu'on voyait fonctionner dans des réseaux efficaces, parce qu'une des perspectives de la mission que j'ai conduite, c'était aussi des visites dans les réseaux pour voir ce qui se faisait d'intéressant. Et on est allé essentiellement dans des réseaux qui avaient de bons résultats pour voir comment ils travaillaient. Et on voyait qu'il y avait des procédures de travail intéressantes autour de l'analyse partagée des difficultés des élèves, autour de la confrontation des informations des différents professionnels, vie scolaire, santé, sociale, personnel de service, qui avait des logiques intéressantes de partage d'informations avec certains partenaires, notamment ceux de la réussite éducative. Enfin, on voyait bien que là où les choses se passaient de façon intéressante et positive, il fallait essayer de travailler dans ce sens-là. Il faut également concevoir quelles sont les instances de travail à mettre en œuvre. Parce que si je dis qu'il faut que les temps soient institués, oui, institués, mais dans quelles instances de travail ? Alors, il y en a qui existent et qui fonctionnent bien, qui fonctionnent de longue date. Les conseils des maîtres, les conseils de cycle, le nouveau conseil école-collège qui va devoir apprendre à fonctionner. Mais en éducation prioritaire, on avait sans doute un temps d'avance sur cette question-là. les conseils d'enseignement, le conseil de classe, le conseil pédagogique. On a d'ores et déjà des instances de travail. Comment les fait-on fonctionner comme instances de travail collectif qui permettent d'atteindre les objectifs qu'on se donne? Et puis, s'il y a besoin, on peut toujours concevoir d'autres instances. Simplement, ne concevons pas d'autres instances, peut-être que nous n'ayons, en quelque sorte, épuisé les ressources que donnent celles que nous avons déjà. Ne pas réinventer constamment l'eau tiède. Enfin, on a insisté sur l'importance du lien école-collège, parce qu'on a pensé que c'était une tradition de l'éducation prioritaire, qu'il fallait absolument continuer d'encourager, d'entretenir, de faire fonctionner la continuité, le travail dans un même cycle, CM1, CM2, 6e, désormais, il y a un travail à faire autour de cette question-là. Bon, pour terminer, je vais être extrêmement simpliste, hein, vous m'en excuserez, je vais donner quelques conseils très simples qui me viennent plutôt de ma pratique des réunions, ou de ma pratique du travail en équipe, et puis de peut-être aussi quelques lectures un peu généralistes sur ce sujet-là. Coopérer dans des réunions de travail. Notre but, c'est ça, coopérer dans des réunions de travail. Il n'y a pas d'abord l'équipe et ensuite son travail. Il y a l'équipe au travail dans des réunions de travail. D'abord, bien déterminer et partager ce pourquoi on travaille en équipe. Bien partager, bien déterminer. Quel est le but à atteindre? Quel est le document à réaliser? Quelle est la situation à analyser? Prendre le temps ensemble de bien déterminer, de bien partager. Deuxième élément, il faut opérationnaliser cette tâche. C'est-à-dire il faut qu'au moins la première réunion de l'équipe, parfois plusieurs réunions de l'équipe, permettent que chacun sache ce qu'il a à faire pour parvenir à l'objectif qu'on s'est fixé. Prendre le temps de bien élucider, s'assurer de la compréhension de chacun, ça vaut toujours la peine. Écouter, beaucoup écouter. Et puis, au cours de la réalisation du travail, il est très important que chacun puisse s'exprimer. Ouvertement, avec précision, dans le respect des autres, des choses simples finalement, des choses de la vie qui paraissent simples, mais qui ne le sont pas tant que ça. Avec en toile de fond toujours la volonté de conserver à l'équipe un bon climat de travail. Même quand il va y avoir du débat, même quand il va y avoir des débuts de conflit, si chacun des membres de l'équipe entend bien ça. De ce point de vue-là, quand dans une équipe, on est plutôt quelqu'un qui est en position d'écouter, il faut être intéressé par ce que disent les autres. Simplement. Montrer aux autres qu'on est intéressé par ce qu'ils disent. S'assurer qu'on comprend bien ce qu'ils disent. S'assurer qu'on partage ou pas le point de vue qui est dit. Et puis quand on est émetteur dans un groupe, il faut avoir quelques qualités simples, très banales. Être clair dans ce qu'on dit, ou essayer de l'être en tout cas, en utilisant un langage compréhensible. Ne pas occuper tout l'espace et le temps, c'est-à-dire laisser la place aux autres aussi. C'est important, c'est d'ailleurs pourquoi je vais m'arrêter. S'assurer qu'on ait compris, c'est important. Et enfin, pour qu'il y ait une véritable réunion, une réunion d'équipe au travail, il y a des conditions. Il faut un animateur de réunion, hiérarchique, pas hiérarchique, c'est pas le sujet. Ça peut parfois être la hiérarchie qui anime la réunion, mais il ne faut pas que ce soit toujours la hiérarchie qui anime la réunion. Il y a des réunions où il n'y a pas de hiérarchie, mais pour autant, il y a un animateur qui a un rôle particulier. Il y a un secrétaire, parce qu'il n'y a pas de réunion, excusez-moi de le dire, mais on n'a pas toujours l'habitude. Mais il n'y a pas de réunion sans compte-rendu, donc je pense qu'il est important. Alors, ça peut arriver qu'on fasse une petite réunion comme ça sans compte-rendu, mais en général, une réunion, elle a besoin d'un compte-rendu, parce qu'on a besoin de pouvoir se référer à quelque chose après. Il y a un ordre du jour préalable, et puis il y a de la circulation des informations dans le groupe. Et on fait tourner les informations, il faut que ça circule. Donc elle est réussie en général si elle est préparée, animée, si elle donne lieu à un compte-rendu partagé. Et sa qualité dépend évidemment de la capacité des membres à exprimer leur point de vue, à poser clairement les désaccords. et à faire en sorte que si des conflits surgissent, on ne les ignore pas, on essaye d'en comprendre les tenants et les aboutissants, et on essaye de les surmonter.